Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Benjamin Morel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, maître de conférences en droit public à l'université Paris 2, Panthéon, Assas. Alors, vous avez lu ce que dit Emmanuel Macron aujourd'hui dans la presse régionale. Le président de la République est d'ailleurs sous le feu des critiques ce soir après son discours sur l'Europe et ses propos sur la dissuasion nucléaire, puisque dans le journal, le chef de l'État se dit prêt à ouvrir un débat sur une défense européenne qui, outre les armes de longue portée et antimissiles, pourrait comprendre les armes nucléaires, ce qui reviendrait à partager un bouclier nucléaire européen. Un chef de l'État français ne devrait pas dire ça, s'est emporté François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes.
Cette expression est d'une gravité exceptionnelle, parce que là nous touchons au nerf même de la souveraineté française. Ce n'est pas être pro-européen que d'avancer dans cette voie, parce que, en fait, ça n'a aucun sens. La dissuasion nucléaire, elle repose bien sûr sur la maîtrise d'une technologie qui coûte très cher aux Français, qui est un investissement historique de notre pays, et en déposséder les Français, c'est évidemment une forfaiture. Qu'est-ce que ça veut dire demain? Ça veut dire qu'on pourrait proposer aux pouvoirs étatiques des autres pays européens de faire intervenir la dissuasion française. On devrait aussi demander l'accord de nos alliés américains. Ça devient vraiment du très grand n'importe quoi.
Propos tenus sur Europe 1 ce matin. LFI aussi ne veut pas entendre parler de cette défense nucléaire européenne. Mathilde Panot, qui dirige le groupe à l'Assemblée nationale, sur RTL à midi.
C'est une folie et c'est complètement irresponsable. Je vais vous dire, ça accroît le risque d'un conflit. Nous sommes contre l'Europe de la défense par ailleurs, puisque nous sommes favorables à une France indépendante au service de la paix. Parce que nous ne voulons pas que notre pays puisse être entraîné dans je ne sais quel conflit par d'autres pays qui ne concernent pas les intérêts souverains de la France. La doctrine nucléaire française, c'est nous ne croyons pas au parapluie, c'est on ne va pas déclencher un feu nucléaire pour un autre pays. Le principe de la dissuasion fonctionne justement parce qu'on sait qu'il est possible de l'utiliser. Or, personne ne croira une seule minute que nous allons utiliser l'arme nucléaire pour un autre pays. Je vais vous dire même, il va falloir aller vers le désarmement nucléaire du monde. Donc ça n'a aucun sens si ce n'est d'accroître les risques d'un conflit nucléaire qui serait catastrophique.
Marie Toussaint emmène, elle, la liste écologiste à l'élection du 9 juin. Elle encore s'élève contre l'idée avancée par le chef de l'État. C'était sur France 3 en fin de matinée.
On voit bien, dans le monde dans lequel on est, que le désarmement nucléaire mondial est absolument indispensable. Pourquoi ? Parce que quand un pays comme la Russie de Vladimir Poutine, hier l'URSS, peut-être demain l'Iran, détiennent l'arme nucléaire, eh bien on n'est pas en sécurité. Et donc, il faut que la diplomatie, la défense européenne agisse vers le désarmement mondial. Mais par contre, je réponds à votre question. D'accord. Quand nous disons avec les écologistes, l'Europe doit être plus forte, être dotée d'une diplomatie, d'une défense commune, eh bien oui, ça veut dire qu'on partage aussi cette force qu'est l'arme française.
Donc le nucléaire aussi.
Donc le nucléaire aussi.
Benjamin Morel, politologue. Comment vous appréciez cette interview accordée aujourd'hui par le chef de l'État après son discours, trois jours après son discours à la Sorbonne ?
Alors, il y a deux façons de voir les choses. D'abord, sur le fond, on n'a pas une inflexion aussi nette par rapport à ce qu'a déjà dit Emmanuel Macron, considérant déjà que les pays de l'Union européenne faisaient partie de la zone stratégique qui était à défendre pour la France. Donc là, on voit qu'on a un pas supplémentaire, peut-être d'un point de vue rhétorique, au moins de la rhétorique interne. Néanmoins, l'idée qu'il y aurait une bombe française au service de l'Europe, c'est pas quelque chose de nouveau. La question in fine, c'est qui appuie sur le bouton en cas de menace. Et là-dessus, Emmanuel Macron reste très prudent. Il ne s'avance pas, disant simplement que c'est un objet de négociation. Ensuite, il y a en effet le tempo de cette annonce. Parce que Emmanuel Macron n'est pas né de la dernière pluie. Il sait très bien qu'en parlant du feu nucléaire, il aborde un sujet extrêmement sensible dans la vie politique française. Il y en a deux, ça et le siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, en disant ça au moment de cette interview, et en n'en parlant pas lors du discours de la Sorbonne, où il était attendu sur des annonces qui étaient des annonces, je dirais, qui auraient fait parler, il acte un peu l'échec de ce discours de jeudi, et le fait que, aujourd'hui, il faut arriver à rattraper quelque peu l'agenda, parce que, in fine, on voit que la liste de Valérie Ayer n'a pas vraiment profiter de cette entrée dans le champ du président.
On l'a entendu, tout le monde est contre cette proposition du président de la République sur un sujet régalien. Peut-il faire l'impasse et ne pas tenir compte de ses oppositions comme il a pu le faire, par exemple, sur l'assurance chômage ou la réforme des retraites ?
Alors là, non, très clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mise à disposition de l'Union européenne du feu nucléaire, alors il y a une doctrine stratégique. Cette doctrine stratégique, elle n'engage que le président. Si demain, on devait avoir un allié qui était attaqué via une attaque nucléaire, à ce moment-là, la réponse française, d'ailleurs encadrée dans le cadre de l'OTAN, dépendrait en grande partie du président de la République. Pour ça, je dirais que c'est de la doctrine individuelle, personnelle, dans une logique, est une logique extrêmement floue, qu'assume lui-même Emmanuel Macron, qui est le principe même de la doctrine de dissuasion. Ensuite, si on devait vraiment avoir un partage du feu nucléaire au niveau européen, si on devait se dessaisir du feu nucléaire au profit de l'Union européenne, là, en effet, ça passe par un accord au niveau interne, notamment par une loi de programmation militaire à minima, et de l'autre côté, par l'accord de nos partenaires européens. Or, aujourd'hui, il n'est pas tout à fait sûr que les Allemands, que les Italiens, que les Espagnols soient d'accord pour devenir une puissance nucléaire.
Il n'y a pas encore de sondage, mais que peuvent penser les Français de cette défense nucléaire partagée, sachant qu'ils sont assez fiers quand même d'appartenir à une puissance nucléaire ?
Ça fait partie, encore une fois, des deux grands attributs de la puissance qui nous restent de la Seconde Guerre mondiale. Le feu nucléaire d'un côté avec la bombe de Gaulle, et de l'autre côté, mais déjà préparé sous la 4e République, et de l'autre côté, le siège au Conseil de sécurité. On peut penser que la France, aujourd'hui, sans ces deux attributs, ne jouerait peut-être pas le même rôle au niveau international. Or, aujourd'hui, ça fait en effet partie des instruments, je dirais, de souveraineté dont on voit mal comment les Français pourraient être heureux de s'en débarrasser.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplin.
La situation au Proche-Orient agite toujours autant la classe politique. On le verra dans quelques minutes avec des manifestations à Sciences Politiques Paris. Avant cela, l'audition par la police de la chef de file des députés de la France Insoumise. Le parti de Jean-Luc Mélenchon avait qualifié les attaques du Hamas le 7 octobre d'offensives armées de forces palestiniennes et non d'attentats terroristes. À ce titre, Mathilde Panot est donc convoquée au commissariat après-demain pour apologie du terrorisme. Il s'agit d'une audition libre et non de poursuite pour un délit, mais cela choque l'écologiste Marie Toutain.
Je suis même choquée que des personnalités politiques puissent être convoquées par la justice pour des opinions. Je veux dire, leurs opinions politiques ne font pas d'elles des justiciables en puissance. C'est assez intolérable dans un état de droit. Il y a un affaiblissement, je crois, de l'état de droit au niveau européen qui est dénoncé parfois par jusqu'au rapporteur des Nations Unies. Encore une fois, on doit avoir le droit dans un état de droit de défendre des opinions
politiques. Quant au ministre de la Justice, il reste prudent sur la suite qui sera donnée par la police, voire la justice, Éric Dupond-Moretti sur BFM TV.
Ici, ce n'est pas le garde des Sceaux qui prend son téléphone pour dire « poursuivez un tel, une telle ». Le garde des Sceaux, il donne des directives, si j'ose dire, générales. Je ne peux pas me prononcer sur la justice quand elle est en cours. Il y a des plaintes. Qu'est-ce qu'on fait de ces plaintes ? On les jette. La justice s'en est emparée. Elle fait son travail. Et j'ajoute là-dessus que les responsables politiques ne sont pas au-dessus des lois.
Quant à l'intéressée, Mathilde Panot, donc, écoutez ce qu'elle disait ce midi au grand jury.
Cette convocation, elle fait suite à une tentative de censure de la part de ce pouvoir, puisqu'il y a eu l'annulation de conférences par 6 fois pour Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan en pleine campagne électorale, donc une atteinte à la liberté de réunion et d'expression. Je vais vous dire, la censure est incompatible avec la démocratie. Je suis convoquée comme présidente de groupe parlementaire pour un communiqué de presse de mon groupe parlementaire. Est-ce à dire que maintenant on va aller convoquer pour apologie du terrorisme les 75 députés de mon groupe ? Est-ce à dire qu'on va convoquer pour apologie du terrorisme les millions d'électeurs et d'électrices qui votent pour nous ? C'est une atteinte à la liberté d'expression. Ce qu'on demande là, avec un rassemblement qui aura lieu mardi à 8h30, au moment où je serai convoquée, ainsi que Rima Hassan. Mardi, porte de Clichy, j'invite toutes celles et ceux qui sont attachés à la liberté d'expression, attachés à la liberté d'opinion.
Est-ce que, en disant cela, Benjamin Morel, elle a raison, Mathilde Panot, elle parle d'une question de liberté d'expression.
Alors, elle a en partie raison. Alors, d'abord, les parlementaires sont couverts par ce qu'on appelle l'irresponsabilité parlementaire. Quand je parle en tant que parlementaire en séance publique, je peux dire ce que je veux, y compris des propos qui peuvent être jugés comme étant illégaux à l'extérieur de l'hémicycle. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Là, on parle d'un communiqué de presse. Donc, en se prévalant de son statut de présidente d'un groupe parlementaire, elle tape un peu à côté. En revanche, ce qui est vrai, c'est que quand vous prenez la définition juridique de l'apologie du terrorisme, c'est-à-dire eh bien, soit appeler à une action terroriste, soit en faire l'apologie ex poste. Ça ne renvoie pas réellement au terme du communiqué. Donc là, on a en effet une convocation en audition libre qui apparaît fondamentalement assez peu fondée juridiquement. On verra les suites judiciaires. Après de là, avoir un grand complot tenu par la chancellerie, je crois qu'il faut un peu raison garder. En effet, ce serait très idiot politiquement pour le garde des Sceaux de mettre les pieds là-dedans.
À présent, l'analyse du service politique de RFI avec vous, Aurélien de Vernoy, sur cette France insoumise, pourtant distancée dans les intentions de vote, qui a donc réussi à imposer cette thématique, hein, donc la situation au Proche-Orient, la guerre Israël-Hamas, dans la campagne électorale. Hein.
C'est volontairement que LFI s'y est jeté, au creux de la vague, pour son positionnement jugé à minima insensible lors des attaques du Hamas le 7 octobre dernier, posture qui a d'ailleurs définitivement enterré l'alliance des gauches, les insoumis ont décidé d'en faire au contraire une force avec un premier pari stratégique lors du dévoilement de leur liste le 6 mars dernier.
Oui, car il y a la présence en 7e position de la juriste franco-palestinienne Rima Hassan, qui est une voix influente sur le conflit au Proche-Orient.
Un coup, comme l'on dit, qui a instantanément changé la campagne. Les insoumis ont rapidement constaté la popularité de Rima Hassan, notamment dans les électorats que les stratèges de LFI cherchent à mobiliser pour le scrutin. Habitants des quartiers populaires, jeunes et plus largement, électeurs sensibles à la cause palestinienne, le patron du mouvement Manuel Bompard avait d'ailleurs fait ses calculs. Nous sommes la liste qui pâtit le plus de l'abstention. Tout point de participation supplémentaire joue en notre faveur. Rima Hassan devient alors la nouvelle égérie insoumise, mise en avant par Jean-Luc Mélenchon lui-même et faisant de l'ombre à la tête de liste Manon Aubry.
Et ce virage stratégique, on va dire, fait grincer des dents en interne comme en externe, Aurélien.
Oui, car le pari est considéré comme risqué. Rien ne dit en effet que l'électorat visé sera au rendez-vous. La direction insoumise le sait et l'assume, mais elle savoure aussi le piège tendu aux ex-alliés de la NUPES. Face à la pression exercée contre les insoumis, socialistes, écologistes et communistes ont été contraints d'afficher une certaine solidarité tout en pestant en privé contre une fuite en avant doublée d'une victimisation qui permet, selon un député PS, de détourner l'attention des difficultés de la campagne des insoumis.
Benjamin Morel, vous pensez aussi que c'est un calcul politique dans la mesure où la liste de Manon Aubry est nettement distancée par celle de Raphaël Glucksmann dans les intentions de vote ?
Alors, c'est un calcul politique. Est-ce qu'il est intelligent ou pas intelligent ? Ça, je dirais que il faut voir un peu la double élection pour Jean-Luc Mélenchon. Concernant les élections européennes, il n'est pas certain que ça mobilise l'électorat de la France insoumise. C'est vrai, on a un électorat qui est sous-mobilisé aux élections européennes. Souvenez-vous des européennes de 2019, on a à l'époque une France insoumise qui est également dans les choux, parce que bah, il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même la locomotive de ce parti, et de l'autre côté, son électorat n'est pas là. Donc, en envoyant de tels signaux, l'espoir de mobiliser cet électorat est réel, mais probablement sera déçu, parce qu'on a un électorat tout de même très abstentionniste. De l'autre côté, s'il s'agit d'adresser en revanche un message clair, un message fort à une partie de cet électorat, notamment en banlieue, en disant « Regardez, on s'occupe de vous, etc. On est les seuls à porter ce combat et donc on est crédible. » Ça peut jouer pour 2027. Or, on sait que pour Jean-Luc Mélenchon, ces élections de toute façon étant perdues, eh bien, il s'agit de viser d'abord 2027 et il s'agit de bétonner, de tenir cet électorat, de le mobiliser ex poste. Et auquel cas, bah, c'est pas un calcul totalement idiot.
C'est la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon ne cesse de répéter que ces européennes, c'est le premier tour de la présidentielle. Alors, la répression de l'armée israélienne dans la bande de Gaza après les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre ont agité ces derniers jours la grande école qu'est Sciences Po à Paris. Des dizaines d'étudiants mobilisés en faveur des Palestiniens ont occupé des bâtiments, la police a fait évacuer, la direction a accepté de revenir sur les sanctions qui avaient été prises contre certains élèves. Aujourd'hui, les réactions sont nombreuses, tous les ténors politiques se sont exprimés, à commencer par Mathilde Panot, sachant que LFI soutient les étudiants pro-palestiniens.
Je salue le fait que la jeunesse de ce pays s'engage pour la paix. Je les soutiendrai autant de fois qu'ils le feront. Expliquez-moi ce qu'a à voir le fait que des enfants se fassent massacrer avec l'islamisme. Qu'est-ce que ça a à voir ? Rien. Par contre, c'est vrai, la Palestine devient un symbole dans le monde. Lorsque nous disons qu'il y a un génocide, nous ne nous taisons pas parce qu'il y a une campagne électorale. Donc nous sommes conséquents.
Et maintenant, Jordan Bardella, qui est la tête de liste du Rassemblement National aux Européennes, il était sur France 3.
On voit depuis plusieurs mois une lente et douloureuse dérive de Sciences Po qui est censée être le creuset des élites de la République française et qui est devenue une ZAD où s'y retrouvent tous les sympathisants, toutes les sympathies des causes anti-flics, wokistes, de soutien à la gauche, à l'extrême gauche. Et moi, je regrette que la direction de l'établissement se soit couchée devant ce qui apparaît comme, aujourd'hui, une perméabilité de l'antisémitisme dans le creuset de l'école des élites de la République. Il y a quelques jours, une étudiante de confession juive a été interdite d'accès à une salle de l'établissement qui a été rebaptisée Gaza. Donc on voit bien qu'il y a la direction de l'école doit faire preuve de la fermeté la plus totale.
Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti sur BFM TV évoque également les dérives que commettent, selon lui, les étudiants pro-palestiniens.
Il y a des choses qui posent quand même question. Quand on part du fleuve pour aller jusqu'à la mer, et donc jeter l'État d'Israël à la mer, pardonnez-moi de vous dire que oui, à l'évidence, ce sont des propos antisémites. D'ailleurs, la réalité, c'est que c'est Mélenchon qui met le feu là, à l'université. Il a mis le feu à l'Assemblée nationale. Il a tenu des propos antisémites. Je vous rappelle que Yael Braun-Pivet est parti camper en Israël. Le mot a été choisi. Ils ont tellement peu de choses à dire qu'ils importent ce conflit ici.
Quant au républicain François-Xavier Bellamy, il est consterné par ce qui se passe dans l'école et critique lui aussi la direction de l'établissement.
La direction renonce à toutes les procédures de sanctions engagées contre des étudiants qui se seraient rendus coupables de quelque faute que ce soit. Elle accepte d'organiser un grand débat. Depuis quand est-ce qu'on met l'antisémitisme autour de la table? Si aujourd'hui cette dérive devait se continuer, plutôt que de soutenir la direction, parce que c'est ce que fait le gouvernement, Sylvie Retailleau remercie l'administrateur de Sciences Po qui a mis en œuvre cet accord de la honte. Plutôt que de soutenir une telle dérive, je crois que le gouvernement devrait au contraire stopper les financements publics à Sciences Po, parce qu'on ne peut pas financer une école qui est devenue le lieu d'un entrisme mélangé de gauchisme et d'islamisme qui légitime des propos antisémites et des actes de violence.
Benjamin Morel se repose donc la question de la liberté d'expression. Finalement, il est très difficile de trouver le point de bascule entre liberté d'expression et paroles qui doivent être interdites.
Alors, c'est, en fait, on risque de vous contredire, ce n'est pas vraiment un problème de liberté d'expression. Ici, dès lors qu'il y a des propos qui sont des propos antisémites, ils tombent sous le coup de la loi. Dès lors que ce sont des propos de soutien à Gaza, aux Gazaouis, etc., ça ne tombe pas sous le coup de la loi. La question, c'est une question d'ordre public. Dans quelle mesure je peux bloquer un établissement? Et c'est un problème qui se pose à chaque mouvement social, en réalité, dans les facs. À quel moment, en faveur de la réforme des retraites, plutôt en opposition à la réforme des retraites ou à telle ou telle réforme de l'université, je suis légitime à bloquer un établissement? C'est jamais légal. En aucun moment, à aucun moment, le blocage d'un établissement scolaire, d'un établissement d'enseignement supérieur, est légal. Néanmoins, au vu de la prégnance de la cause, il va être considéré par les autorités publiques comme étant plus ou moins justifié, plus ou moins acceptable, plus ou moins légitime. Et là, d'un côté, avec ce mot d'ordre, et parfois en effet des dérives antisémites, de l'autre, la transgression de la loi par le blocage de l'établissement, se pose en effet un problème qui devient un problème de l'égalité et qui devient un problème également d'expression légitime. Donc là, pour le coup, on a une interprétation de ce mouvement qui est extrêmement divers selon les différents bancs politiques liés justement à cette coordination.
Ce qui se passe à Sciences Po Paris est-il finalement non pas un épiphénomène, mais une lame de fond quand on considère ce qui se passe dans les universités américaines?
Alors, je crois qu'il y a quand même quelque chose de très endogène. On a vu là-dedans une forme de coopération entre les facs américaines et Sciences Po Paris. Je crois qu'il faut raison garder. On a un mouvement endogène à Sciences Po. D'ailleurs, c'est un nombre d'étudiants relativement réduit par rapport au nombre d'étudiants à Sciences Po qui se mobilisent, qui existent dans le cadre d'associations, de formations politiques et qui tout d'un coup mobilisent et mettent en ébullition l'établissement. Il peut y avoir des porosités idéologiques, néanmoins, il y a vraiment une situation endogène propre à l'école, dont on verra si elle peut éventuellement faire école ailleurs, si on peut avoir des blocages dans d'autres universités. Pour l'instant, on est quand même plutôt en température basse, y compris dans des universités où il y a une tradition de mobilisation. Donc, il apparaît quand même que ce phénomène est très propre à la rue Saint-Guillaume.
Et je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, qui n'est pas très loin de Sciences Po. Il n'y a rien pour l'instant.
Alors, vous savez, Panthéon-Assas est rarement bloqué, ça fait même partie de sa réputation. Donc, je crois qu'en effet, on ne sera pas les premiers. Mais vous avez d'autres établissements, je pense notamment aussi de Tolbiac pour Paris 1, je pense également à la faculté de Nanterre, où là, vous avez des stratégies, vous avez des cultures de la mobilisation extrêmement fortes, de mouvements sociaux en mouvements sociaux. Pour l'instant, on n'est pas dans une montée de température extrêmement haute comme on a pu les connaître il y a ne serait-ce que quelques mois avec la réforme des retraites. Donc voilà, ça reste très propre à Sciences Po. pour l'instant.
Merci pour vos analyses et commentaires, merci Benjamin Morel, politologue dans Dimanche Politique, ce soir sur Radio France Internationale.